Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Eh bien, nous continuons de discuter avec Patrick Roger, Cécile Dominibus, qui n'ont pas encore quitté le studio. Patrick Roger a envie de rester. Hein. Patrick, vous êtes faites l'émission Média, je vous interrogeais sur votre carrière.
Vous voulez m'inviter, c'est ça. Non.
Votre vie, votre œuvre, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Pardon ? Oui, on va rajouter une heure, nous on viendra vers 11h, ça vous va? On est ensemble jusqu'à midi, 10h-11h, les médias, avec une nouvelle émission sur M6, le sens de l'effort. On aura Marius, le patron, qui sera avec nous, c'est le grand retour de Marius. Et puis Maïline et Morin, qui sont deux jeunes décrocheurs, que Marius, entre autres jeunes, a essayé de remettre dans le droit chemin. Donc ils vont nous raconter cette expérience. Et puis, hier, on apprenait que France Télévisions réfléchissait à supprimer, en tout cas dans la première diffusion, le journal Soir 3 et à le déplacer sur la chaîne France Info TV. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous regardez France 3, vous auditeurs de Sud Radio ? Est-ce que vous regardez ce journal qu'on a un petit peu de mal à trouver dans la grille ? Il faut bien le dire, les horaires sont quand même assez fluctuants. 0826 300 300. Et puis à partir de 11h, écoutez, nous aborderons évidemment le sujet qui fait l'actualité, la marche contre l'antisémitisme. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est d'une grande hypocrisie que ces grandes marques, ces grandes commémorations où on se promet plein de choses et dans les actes, eh ben, il n'y a pas beaucoup d'effets. Voilà, on en parlera avec vous à partir de 11h. On commence avec bonjour Rémi, bonjour Gilles déjà.
Bonjour
et
Valérie.
On commence avec les audiences de Rémi et le carton.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors le carton,
donc,
hier soir...
Oui Valérie, c'est TF1 encore avec Sam, 4 018 000 téléspectateurs et 16,9% de part de marché. C'était les deux derniers épisodes de la saison 3 avec Natacha Nanager et Fred Testo. Égalité avec la semaine dernière, donc bon score, TF1 était leader nettement hier devant M6. Ouais. 2 513 000 téléspectateurs et 11,6% de part de marché pour Marié au premier regard. C'est 100 000 de plus que la semaine dernière. C'est un bon score pour
cartonne,
M6.
Oui,
alors, c'est moins bien que L'amour est dans le pré d'il y a 15 jours, mais c'est quand même un score, un bon score. Ouais. C'est mieux que la saison dernière en décembre 2017.
C'est bien fichu, j'ai zappé et franchement, on est un peu scotché quand on regarde, on est un peu interloqué par le truc.
C'est voir la vie par le petit bout de la lucarne.
C'est ovnis, voilà.
Oui, c'est un peu des ovnis. Mmh. Bah, dites-nous si vous avez regardé 0826 300 300, si vous avez regardé Marié au premier regard, si ça vous plaît cette émission. Ensuite, on passe au Gadin.
Le Gadin, c'est pour France 2 hier, 1 810 000 téléspectateurs et 7,65% de part de marché pour les 3e et 4e épisodes de la saison 2 de la série franco-belge Zone Blanche. C'est 300 000 de moins que la semaine dernière, donc ça n'accroche pas et ça décroche plutôt même. France 2 a été battue par France 3 hier avec Faut pas rêver. Faut pas rêver réussit presque 1 900 000 téléspectateurs pour le magazine de découverte présenté par Gilles.
Eh bien, c'est... comment il s'appelle ?
Voilà, non. Caroline de Caroline. Salvo.
C'est une nouvelle.
Oui, voilà. Bon, j'avoue, c'était un petit piège.
Bon, oui, non, ça, je ne savais pas non plus. On passe à la surprise.
La surprise, le très bon score d'Arte hier, 1 742 000 téléspectateurs, 7,4% de part de marché, pour le film de Chabrol,
Le Boucher,
de 1970, avec Jean-Yann et Stéphane Audran.
Ça ne vous intéresse peut-être pas, mais je vous le dis, je n'avais pas du tout prévu de regarder ça. J'ai zappé, je suis tombée dessus et je suis restée.
Comme beaucoup de Français, parce qu'Arte était hier la 5e chaîne généraliste. Ouais. 500 000 de plus que Les Noces Rouges la semaine dernière. En fait, Arte réussit une très bonne audience avec sa série Chabrol en ce moment. Ouais. A signalé bon score aussi pour W9 avec L'Âge de Glace 2 qui a réussi 1 284 000 téléspectateurs.
C'est Caroline qui vous appelle. pour lui dire, tu ne me connais pas.
Voilà.
C'est pas normal.
C'est ça. W9 était la 6e chaîne hier. Alors, côté talk show d'Access, toujours un bon score pour Quotidien sur TMC. 1 576 000 téléspectateurs pour Yann Barthès qui recevait les acteurs du film Grâce à Dieu.
Ouais, de François Ozon.
Oui, exactement. Devant C'est à vous, quotidien, devant C'est à vous sur France 5. 1 445 000 téléspectateurs pour Anne-Elisabeth Lemoine qui recevait Laurent Ruquier et Dominique Besnéard pour le Grand Oral. Un bon score, 100 000 de plus que la semaine dernière. Et puis, Touche pas à mon poste. En troisième position, toujours sur C8, 1 233 000 téléspectateurs pour Cyril Hanouna hier qui recevait Cadmerade. Alors à noter que les audiences de TPMP ont été mesurées hier entre 20h46 et 21h27. C'est toujours 45 minutes seulement. Mais alors, carrément, maintenant, on décale encore l'heure de début et l'heure de fin pour essayer de ramasser le maximum de téléspectateurs. Mais en fait, c'est quand même toujours juste au-dessus du 1,2 million.
Prend le même quart d'heure contre quart d'heure, mais 21h30 pour commencer le film.
Évidemment, du coup, le C8 arrive très nettement derrière. Et puis, la première partie de Touche pas mon poste est à 887 000. Donc, vous voyez, on est tout juste au million si on fait. Si on réunit les deux parties.
Il faut sauver le soldat Hanouna.
Allez, on a Sonia en ligne avec nous. Bonjour, Sonia.
Oui, bonjour.
Nous appelez d'où, Sonia ?
De Perpignan.
Perpignan. Il fait beau, il y a le soleil ?
Oui, il commence à poindre.
Il commence à poindre.
Mais dans la journée, nous avons une chaleur inimaginable pour la saison.
Vous avez de la chance.
Oui,
mais nous aussi, on a beau temps, mais pas autant que vous. Qu'est-ce que vous avez regardé hier soir ?
Alors, j'ai voulu regarder Mariée au premier regard, parce que la semaine dernière, je suis tombée par hasard sur cette émission. Mmh. Et comme c'est très tendance de faire connaissance avec tous les sites qui se sont développés, je me suis dit, ça a l'air intéressant. Je regardais, ma foi, oui, c'est captivant quand même. Ouais. Et j'ai voulu voir la suite, parce qu'il y avait un couple, on ne savait pas s'ils allaient se plaire ou pas à l'entrée de la mairie. Et j'ai voulu voir la suite, et donc hier soir, je n'ai pas raté.
Ouais.
Et avant, j'ai vu Yann Barthès, bien sûr, comme d'habitude, j'adore son émission. Et le premier Marié au premier regard, franchement, c'est...
Ça vous plaît bien.
C'est bien.
Ça vous choque pas.
Moi qui ne regarde pas c'est des choses comme ça, je suis plus sérieuse d'habitude dans mes choix.
Vous avez des enfants, Sonia ? Vous avez des enfants ?
Pardon ?
Vous avez des enfants ?
Ah oui, je suis grand-mère, j'ai 7 petits-enfants.
Si un de vos enfants vous annonçait qu'il voulait participer à cette émission, vous lui diriez quoi ?
Mais avec plaisir.
Ah bon ?
Mais oui, bien sûr, il faut avancer dans le temps, c'est fini le temps.
Oui.
Excusez-moi, mais je vais. Vous savez, ils me font penser aux mariages d'autrefois, mariages de raison.
C'est vrai.
Les mariages arrangés.
Alors, on mariait les gens suivant leur affinité, suivant les familles.
Oui, ou pour avoir fortunes, une terre supplémentaire.
Et c'était des mariages arrangés qui duraient.
C'est vrai.
Voilà.
Très bien, merci Sonia. On a Emmanuel avec nous en ligne. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. Qu'avez-vous regardé vous hier ?
Alors déjà, je vais vous offrir un joli soleil basque, puisque j'habite Biarritz.
Et il fait beau, je crois que c'est là où il faisait le plus chaud.
Alors je découvre quelque chose, c'est que ça fait 17 ans que je vais aux Antilles l'hiver pour aller chercher le soleil. Et si ça continue, je ne vais plus aller aux Antilles, parce qu'hier, la plage de Biarritz était pleine de gens qui bronzaient, et nous sommes en février, je rappelle.
Eh oui, c'est vrai. Ça nous fait du bien, ce petit passage météo.
Et donc, je vais décrocher.
Vive le Pays Basque.
Et donc, vous travaillez à l'office de tourisme de Biarritz.
Et nous, on va. Voilà. Alors, Emmanuel, vous avez regardé Arte, me dit-on, hier, vous avez regardé Le Boucher.
Pour France 5 et Arte, mais je m'y retrouve tellement souvent entre toutes les émissions qu'ils proposent, puis surtout les documentaires animaliers sur la faune, la flore, etc., l'histoire et tout. Ouais. Et donc, j'ai découvert, je ne maîtrise pas parfaitement Chabrol, mais j'avais été marqué par La Cérémonie quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est un film qui m'avait vraiment marqué, donc j'ai eu plaisir à le revoir. Ça n'a pas vieilli, on a toujours ce même... Et cette ambiance.
Et ça vous a pas semblé démodé ? C'est la question que je me suis posée hier en voyant un peu, en regardant Le Boucher, sur la réalisation, sur...
Alors, La Cérémonie, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que...
Mais hier, c'était Le Boucher, hier.
À quel point la finale... Bon, bien sûr, il y a la scène qui est terrible, que je vais pas rappeler. Je ne savais pas que j'allais atteindre... À nouveau, c'est ce taux d'émotion quand Sandrine Bonner, en fin de compte, s'en va, il y a une réflexion, il invite à une réflexion, parce qu'on comprend plein de choses à partir de ce moment-là qu'elle va pouvoir rebondir.
Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias. L'instant zapping.
Alors évidemment, hier, les talk shows sont revenus sur les actes antisémites, comme vous l'avez entendu d'ailleurs dans le débat de Patrick Roger. Désormais, il y a les antisémites et les antisionistes. Alors, Quotidien, justement, a été voir un gilet jaune. Il a été interrogé et vous allez voir que lui aussi fait une différence. Et par la suite, ils ont évidemment été rapportés le propos à Alain Finkielkraut.
Vous savez ce qui se passe en Palestine ? Vous croyez que c'est normal ? C'est ça, l'antisionisme. C'est défendre les Palestiniens qui se font massacrer. Ils n'ont pas dit sale juif, ils ont dit sioniste. Vous savez
sioniste
ce que c'est
de merde.
Sionisme ? Eh bien oui, je renie tout ce qui est antisémitisme, mais là, c'est pas de l'antisémitisme, c'est absolument pas ça.
Les gilets jaunes font la différence entre les juifs et les sionistes. Nous, on est allé les voir cet après-midi, et c'est ce qu'ils disent.
On dit qu'on est antisioniste, mais parce que la haine des juifs a changé de nature. Puisque je suis attaché à Israël, je suis un fasciste et une grosse merde. Ce qui vise à travers moi, je le répète, la très grande majorité des juifs de France.
Voilà, et je pense que vous allez revenir dessus.
On va en parler à 11h, ouais.
Non, mais c'est le grand débat, c'est on peut critiquer la politique d'Israël, évidemment, la politique d'un gouvernement et tout. En revanche, est-ce que ça veut dire que ça implique qu'on est antisioniste, la destruction de l'État d'Israël, enfin, voilà, c'est ça qui est en jeu. Et donc, c'est en ce sens que l'antisionisme peut être et doit être assimilé à l'antisémitisme.
Le débat a aussi eu lieu sur C'est à vous, sur France 5, où Natacha Polony s'est opposée à Jean-Michel Apathy de vision différente.
Si on commence à tout mélanger, on envoie le message à des tas de gens qu'on ne peut pas se révolter parce que s'il y a une révolte, on se fait accuser d'antisémitisme. Or là, il y a de l'antisémitisme.
Il ne faut pas se révolter.
Là, c'est absolument.
Il faut pas se révolter en pendant de manière symbolique Emmanuel Macron en disant le banquier. Il faut. On n'a pas été. Jean-Michel. C'est là que la presse n'a pas été vigilante. Tout le mois de décembre, sur les ronds-points, il y a eu des scènes que nous avons relayées avec une complaisance qui aboutit à ça aujourd'hui. Non. Et nous n'avons pas été assez vigilants.
Et qui a abouti à une violence. Elle a été.
J'ai entendu Emmanuel Macron, dans la Drôme, interpellé par une femme qui porte un gilet jaune et qui dit « Ah, vous étiez banquier !» Et Emmanuel Macron lui dit « C'est quoi le sous-entendu banquier chez Rothschild ?» Nous n'avons pas corrigé tout cela, nous n'avons pas repris tout cela. Nous avons été d'une complaisance folle.
Voilà Jean-Michel Apathy. Oui, vous savez que Jean-Michel Apathy fait aussi maintenant journaliste animateur. Vous savez que depuis hier, puisque nous sommes en vacances, il a remplacé Roselyne Bachelot sur LCI. Bon, c'était quelque chose hein, quand même, les débuts de Jean-Michel Apathy, mais c'était une première. Mais alors, il y a déjà du mal avec la technique et les appels.
Nous, en ligne depuis le département du Tarn, Huguette. Bonjour Huguette. Vous m'entendez Huguette? Je pense qu'Huguette est au téléphone et que le son de ma voix va lui parvenir et que le son de sa voix va nous parvenir. Vous êtes avec nous Huguette, non?
Oui, tout à fait.
Bonjour Huguette.
Bonjour.
Ah, il a retrouvé Huguette.
Ouais, c'était le bizutage.
Toute l'émission était un petit peu comme ça.
Un petit peu comme ça.
Un petit peu bancale.
Alors, Roselyne Bachelot, je sais pas si elle est en vacances, en fait. Elle présente elle anime le Grand Oral ce soir.
Oui, mais c'était enregistré.
Elle est
enregistré.
Oui, d'accord.
Elle est en vacances. Elle est en vacances toute cette semaine.
C'est pas pour être.
Pendant 10 jours, c'est Jean-Michel Apathy qui la remplace sur LCI. Et c'est vraiment une première de le voir présenter un talk sur une chaîne de télé. Dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna est revenu sur l'émission de Patrick Sabatier vendredi.
C'était pas très confraternel,
vous l'avez vu.
Oui, j'ai vu le passage, c'était assez surréaliste.
On a appris des choses incroyables sur PPDA. Il y a un scoop qui m'a totalement chamboulé. Attention, vous allez être choqués, Cyril, vraiment.
C'est vrai.
Voici le laurier de l'info tellement capital que si tu la connais pas, t'as raté ta vie.
Vous mangez une madeleine tous les matins?
Mais c'est pas fini!
Un bâtard! On embrasse Patrick, mais arrêtez! Non, c'est sorti du contexte! Bon, vous voulez que je vous fasse un aveu? J'ai reçu un SMS de Jean-Marc Morandini à ce moment-là qui me dit: je crois que je vais faire une alerte!
Ça, c'est très drôle! Et en fait, ils ont montré la fausse alerte du site de Jean-Marc Morandini.
Mais il est producteur de l'émission.
Mais oui, il est producteur. Oui, il est producteur.
Mais là, je crois que bon.
Bon, il était producteur des strikes, vous savez. Mais heureusement, dans ce monde du brut, Valérie Rémy, j'ai une bonne nouvelle. Car vous savez qu'en ce moment, c'est le salon Parapsy à Paris, où sont réunis tous les voyants et médiums. Ouais. Et vous allez voir, ils connaissent notre avenir.
Spoiler, spoiler, spoiler.
Alors ce sera, on va dire, une année qui sera pas trop négative.
C'est une année qui va être très lourde.
Hein. Je vois un remaniement, je vois vraiment quelque chose qui va changer.
Il va y avoir aussi pas mal d'institutions qui vont sauter.
l'Assemblée nationale.
Monsieur Macron va partir.
Il va rester, il va faire son quinquennat.
Un coup d'État ?
Un coup d'État, exactement.
Mais on ne fera pas sauter le président.
Le sud très marqué, tempête, je vois des écoulements de boue.
Il y aura certainement deux tentatives d'assassinat. On va quand même arriver à une monarchie en France. La Chine, la Russie vont vraiment se fâcher avec les États-Unis.
Il peut gagner les européennes ?
Pour moi, je le sens bien.
Tu vas faire un bon score ?
Non. Par contre, je vois aussi une femme.
Donc, je vois une femme qui ressurgit dans la politique.
Ça peut être Nadine Morano.
Voilà. Bon. Ça peut être Nadine Morano.
Remarque, avec tout ça, il y en aura moins un de vrai dans tout ce qui a été dit, puisqu'il y a absolument tout et son contraire.
Oui, hein, la seule qui est sérieuse, c'est Trina McDi sur Sud Radio, qui est depuis le salon Parapsy d'ailleurs.
Ah bon, très bien.
Cet après-midi, à partir de 16h jusqu'à 17h.
C'est bien, très bien. On va passer à la séquence suivante.
Oui, moi je vois qu'il va avoir des adolescents.
Absolument.
Et un militaire.
Marius sera avec nous pour parler du sens de l'effort ce soir, 21h sur M6, avec Maïline et Morin. Ce sont deux jeunes décrocheurs qui sont remis dans le droit chemin. Et puis.
Et ensuite, on reviendra sur.
Et puis, on va revenir donc sur cette annonce, alors ou pas.
Serge Simineau, journaliste.
Et puis, on aura Yannick Letranchant, le patron de la rédaction. Directeur de l'information de France Télévisions, qui va nous expliquer cette information. Voilà. Merci. Merci à vous, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
L'actualité d'aujourd'hui, c'est le sens de l'effort. Nouvelle émission qu'M6 lance ce soir à 21h. Vous vous souvenez peut-être de Garde à vous. Eh bien, ce soir, le sens de l'effort mise sur, une fois de plus, les valeurs militaires pour aider des jeunes en décrochage, en rupture, à se réinsérer. Avec nous, Marius, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le militaire, le patron, le coach de ces jeunes que vous allez tenter d'aider. Oui, je les vois qui font déjà des signes. Et on a avec nous Maïline et
Morin,
qui sont avec nous et qui ont participé à cette émission. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va très bien.
Vous avez vu, Valérie, ils sont bien élevés.
Ils sont bien élevés, voilà.
Ils ont fait l'émission.
Marius, racontez-nous, on se souvient que on vous avait vu encore une fois dans Garde à vous. Cette fois-ci, qu'est-ce qui vous a plu dans ce concept, le sens de l'effort ?
Alors déjà, on va revenir sur les jeunes. Non, ils ne sont pas bien élevés, ils sont normaux. Ouais. Ça, c'est la normalité, ça, de dire bonjour, tout ça, c'est la normalité. Non, après, voilà, Garde à vous, c'est une autre... C'est une autre... Garde à vous, c'est une autre histoire.
Ouais. Je pense que Gilles, ce serait bien, il peut faire le prochain
stage. Non, moi, je ne fais pas les pompes.
C'est ouvert à tout le monde.
Ouais. Oui, racontez-nous donc, la différence
donc,
avec
voilà, déjà,
Garde
déjà
à vous.
Un travail de confiance avec Studio 89 et puis M6. Donc, on s'est revus tout au long, puisqu'ils avaient encore... Ils voulaient retravailler avec moi, donc là-dessus, on s'est revus, on a fait... Moi, je voulais repartir sur quelque chose, bien sûr, dans mon domaine de compétence, c'est-à-dire les valeurs militaires, ça c'est sûr. Mais je voulais qu'à côté, il y ait quelque chose qui nous permette de faire avancer ou de changer un petit peu les choses. Ça, c'était l'idée du départ. Et puis voilà, on a travaillé sur le sens de l'effort parce que c'est à côté... On s'est aperçu effectivement qu'on a des jeunes qui peuvent être un petit peu en perdition, avoir des doutes sur leur avenir professionnel ou personnel. Et puis, quand on a commencé à travailler sur l'écriture du programme, je me suis un petit peu retrouvé, dans ce programme, puisque moi, j'ai été jeune et j'ai eu des doutes, hein, que ce soit personnel ou professionnel. Moi, j'ai été sauvé par la Marine nationale, comme je raconte ça dans mon livre, quoi. J'ai été sauvé par la Marine nationale. Et puis après, avec les années et le temps, je suis devenu père aussi. Et puis moi, mes enfants ont eu des doutes. Et puis moi, en tant que parent, ben, beaucoup de mal à répondre aussi et aux doutes de mes enfants. Ouais. Donc ce projet, il a été établi. Est-ce qu'on pouvait éventuellement sauver des jeunes avec les valeurs militaires? Mais en parallèle, on voulait donner un sens, le sens de l'effort, mais un sens aussi à cette émission, avec justement un organisme de formation compétent qui permettait tout au long de cette émission, de faire des bilans de compétences et de trouver des solutions.
Parce qu'il n'y a pas que l'aspect, la différence avec Garde à vous, c'est qu'il n'y a pas... Garde à vous, c'était plutôt une sorte de service militaire. Là, il y a une formation...
C'est totalement différent. Vous savez, moi, je fais les choses comme je prends un livre sur l'étagère. Garde à vous, c'est une histoire. Et là, aujourd'hui, le sens de l'effort, c'est autre chose.
D'accord.
C'est complètement différent.
Alors, pourquoi les uns et tous les deux, vous avez... Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure, Morin ?
Moi, je me suis retrouvé dans cette aventure parce que, justement, j'étais un peu décroché du système, on va dire.
Ouais, vous aviez fait un CAP
CAP menuiserie. Puis après, j'ai abandonné tout ça, quoi.
Vous l'avez eu le 8 et le 9, vous avez arrêté. C'est ce que dit votre maman dans la
C'est ça, exactement. Donc, oui, après, j'ai abandonné. Et puis, quand on est en décrochage,
on ne sait plus trop comment s'en sortir.
Exactement, en fait. On descend, on descend, on descend. On a du mal à remonter et c'est très compliqué. Mais donc...
Ouais,
c'est, quand on participe à l'émission, c'est qu'on se dit qu'on a envie de s'en sortir.
Exactement. C'est surtout ça. Il faut avoir l'envie, au moins à un moment donné.
Est-ce que vous occupez vos journées comment, ça, le décrochage? Vous sortiez? Vous faites des jeux vidéo?
C'est ça le problème. C'est que rien faire un certain temps, c'est bien, parce qu'on se repose, c'est bien. Mais tout le temps, c'est lassant. C'est chiant. Très clairement, c'est chiant. Ouais. Voilà. C'est pas vivable, c'est pas une vie, vraiment. Il faut faire quelque chose de ces journées parce que.
Ouais. Et Maïline, vous aviez 19 ans, vous en avez 20 aujourd'hui. Vous avez passé votre bac et puis vous avez arrêté vos études après une semaine à la fac.
C'est vrai que moi, la fac, c'est pas quelque chose qui me plaisait, donc j'ai vite douté de mon avenir. Et au final, j'ai abandonné, j'ai pas cherché à trouver ce que je voulais faire dans la vie ou quoi. Et comme Morin le dit, on descend et c'est dur de remonter. Et je sortais beaucoup, j'étais souvent avec mes amis, donc c'est vrai que d'un côté j'appréciais ça et d'un autre côté je savais que c'était pas une vie, qu'il fallait que je me reprenne en main.
Ouais, votre mère dans le doc dit que vous croisiez tellement vous faisiez la fête, c'est ça? Elle partait travailler, vous arriviez le matin, c'est ça?
C'est vrai que je la voyais pas souvent.
Ouais, Rémi.
Et vous avez décidé, c'est vous qui avez voulu suivre le stage ou comment ça s'est passé votre participation à cette émission?
Moi, la participation, elle est venue de moi. J'avais vraiment envie de me reprendre en main et de me dire que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Donc c'était vraiment un choix de ma part.
Parce que c'est pas évident quand on regarde le début de l'émission, parce que là vous êtes dans les... Bon, moi, nous on a visionné simplement le premier épisode qui passe ce soir, mais vous êtes quand même... je vais pas dire comment ça se passe, mais si vous êtes là, c'est que vous avez continué, vous êtes à deux doigts d'arrêter quand même, de lâcher.
C'est vrai que le contexte, je pensais pas qu'il était comme ça, on m'avait pas dit que c'était un service militaire. C'est vrai, de base je suis pas du tout sportif. Quand j'ai vu qu'on allait faire du sport tous les jours et tout, j'ai lâché comme dans mes habitudes. Mais
c'est dire que ça commence fort.
Ça a commencé très fort.
C'est la normalité, mais c'est là où c'est intéressant.
C'est pas la normalité d'aller se baigner.
Non, mais c'est la normalité d'avoir envie de décrocher quand on est confronté à l'effort.
Et puis justement, c'est une histoire de graduation. Quoi. On va chercher la graduation. Ce qui paraît peut-être pour Morin très anodin va paraître insurmontable pour Maïline. Et c'est là où on travaille sur le côté individuel de chaque stagiaire.
Énormément.
Et on va s'apercevoir. Mais le but, c'est de monter comme les montagnes russes, d'aller très très haut, mais jamais sans faire tomber la personne. Parce qu'on travaille vraiment dans un esprit de valorisation de l'individu. Jamais d'humiliation. C'est toujours valoriser l'individu pour qu'il puisse s'en sortir et arriver. Et une fois qu'on met ça dans un coin de leur cerveau, ils vont pouvoir s'en servir tout au long de leur vie, quoi. Et l'objectif, il est là. Et les valeurs militaires, c'est la seule boutique aujourd'hui où vous pouvez commencer soldat, marin, matelot et finir président, directeur général si vous en donnez les moyens. Donc c'est la remise en question permanente. Donc nous, on se base là-dessus. Et avec nous, à côté, un organisme de formation, des professionnels qui va les aider justement sur ce côté formation pour les faire avancer. Et nous, on veut redonner confiance à ces jeunes.
Alors Morin et Maïline, vous allez nous raconter ce que ça vous a apporté. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Ce soir, M6 diffuse une nouvelle émission, Le Sens de l'Effort. Ce sera à 21h, une émission qui a décidé d'aider des jeunes qui ont décroché, d'aider, en tout cas, ils se sont aidés eux-mêmes parce que Le Sens de l'Effort, le titre est bien trouvé, puisque c'est Marius qui était en garde à vous il y a déjà 3 ans, qui est un petit peu à la tête de ce commando avec une école de formation. Morin, Maïline, vous avez participé à cette émission. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Morin?
Alors moi, personnellement, ça a changé, ça m'a appris à aimer les petites choses simples de la vie, en fait. Je vous dis la vérité, parce que quand on nous met dans un contexte pareil, le moindre truc qu'on aime, on l'apprécie directement. Donc quand j'étais décrocheur, on va dire, j'aimais rien, quoi. Enfin, j'aimais vraiment que des choses pas simples, quoi, des choses compliquées, tout ça. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté là-dessus.
Et après, vous avez repris vos études. Parce que ça dure 10 jours. Est-ce qu'en 10 jours, on a vraiment le temps de changer? Là, je vous poserai la question à tous les trois.
Oui, on a vraiment le temps de changer. Vraiment. C'est Marius est là pour ça. Il nous aide énormément. Mais oui, on a vraiment le temps de changer. Ça m'a vraiment remis en question. Et je suis reparti très bon de ce stage.
Moi, déjà, je vais répondre sur le fait des 10 jours.
Ouais.
Sur 10 jours, on a largement le temps de changer parce que c'est super intense. Il faut savoir que c'est très, très intense. Après, comme Marius le disait, Morin peut le vivre autrement que je le vivais sur l'émission. Mais en fait, chaque jour, j'avais l'impression de reprendre confiance en moi un peu plus. Et comme on peut le voir dans la bande-annonce, Marius explique que la confiance en soi, c'est la première chose qu'on doit avoir pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que moi, la confiance en moi, ça m'a permis beaucoup de choses. Et j'ai appris à avoir des rêves et me donner un objectif.
Là, vous faites quoi, là, actuellement, par exemple? Vous en êtes où?
Là, dans ma vie, je suis assez bien.
Oui, bon, vous voulez pas rentrer dans le détail.
Voilà, je rentrerai pas dans les détails.
Marius, 10 jours, c'est suffisant pour...
Alors, justement, je reviens sur le mot commando, parce que c'est employé toujours à toutes les sauces. Le mot commando est réservé à des professionnels, d'accord? C'est des professionnels, et quand on prononce ce mot-là, c'est qu'on est professionnel et qu'on vit autre chose. Voilà, pas faire l'amalgame avec ça. Elle le dit, et Maïline et Morin l'expliquent bien, c'est surtout, 10 jours, ça peut être 10 jours, c'est pas la notion de durée, c'est une histoire de graduation. Mais quand on a réussi à donner confiance aux gens... Et elle a employé ce mot, moi je reviens là-dessus, c'est passion, parce qu'aujourd'hui il faut vivre ses rêves. Et voilà, elle dit, je suis passionné, il faut leur redonner le goût de la passion. Quand on est décrocheur, on n'est plus passionné. Morin le dit précédemment, on est chez soi, on a ce qu'on veut, on ne se bouge pas, on n'est pas actif. Moi je dis toujours, un être vivant est un être qui agit. Donc nous, on les fait agir en leur donnant de confiance, en les responsabilisant.
On voit pendant l'émission que vous avez une image vraiment, il faut vous appeler patron, etc. Et en même temps... vous avez des entretiens individuels avec les autres. Comment, Maïline et Morin, comment vous l'avez perçu comme un dictateur au début ou ça a un peu bougé votre façon de percevoir Marius? Ou tout le temps un dictateur?
Moi, je vais vous dire personnellement, je l'ai vu comme quelqu'un qui va nous aider directement.
Parce dès le début?
Oui, dès le début, parce que je sais qu'il fallait... Enfin, pour certaines personnes, et pour moi surtout personnellement, il fallait y aller fort, quoi. Fallait y aller fort, parce que sinon, s'ils nous mettent quelqu'un de très doux... Ça va pas mouiller. Je sais que pour moi, personnellement, c'est
pas ce qui est assez étonnant, et on voit dans l'émission, ils sont très présents, c'est pas le rôle des parents. C'est-à-dire qu'un militaire peut réussir là où les parents ne réussissent pas. Est-ce que finalement, il faut pas mieux faire un stage pour les parents à apprendre comment coacher leur enfant plutôt que de coacher.
Marius, ce sera la prochaine émission.
Et voilà, exactement. Vous l'avez déjà dévoilé, le sujet de la prochaine émission, prendre les parents. Non, c'est une boutade. Mais je vous dis, souvent, je me pose la question, Mais si vous êtes père, comme je disais, je me retrouve dans cette émission, on est père, souvent, la facilité d'un tiers, d'un intervenant, d'un tiers extérieur, facilite justement ça par rapport aux parents, par rapport aux proches de la famille. C'est peut-être plus facile. Et quand on part très fort... Après, pour revenir sur le terme patron, parce que je ne veux pas... Oui. Patron, c'est un grade dans la marine. En fin de compte, quand on est premier maître dans la marine, l'appellation, c'est patron. Quand on est maître principal, c'est cipal. Quand on est amiral, c'est le boss. Donc voilà, donc moi, j'ai pas été jusque-là. Moi, on m'a appelé patron parce que j'étais premier maître et ça venait de là, l'histoire. D'accord. Bon, pour revenir là-dessus. Mais après, un tiers extérieur, c'est toujours plus facile. On va très, très fort, très, très dur au début. C'est justement pour mettre un petit peu ce mur et cette séparation qui va nous permettre de garder cet écart. Et après, on va avancer tranquillement. Individuellement. Et là où on fait la différence, c'est avec des activités qui sont collectives en permanence et des activités individuelles où la personne, justement, par rapport à la différence entre les uns et les autres, pourra s'exprimer pleinement.
Mais de nos jours, les parents sont devenus laxistes.
C'est pas de nos jours, mais les parents aujourd'hui, ceux comme vous, comme moi, ils courent tout le temps, les parents travaillent, les deux travaillent, ont pas le temps.
Je pense qu'il y a des parents qui peuvent être. Vite dépassés par leurs enfants parce que leur enfant ne leur dit pas tout. Voilà, et comme dit très bien Marius, il y a des parents qui travaillent. Je vous dis mon exemple à moi, j'ai ma mère très malade, j'ai mon père qui travaille tout le temps. Voilà, je suis vite en décrochage.
Vous voyez, tout seul.
Pourtant, ils ont essayé, pas faute d'avoir essayé.
Maïline, vous, c'est pas le cas, votre maman, vos parents, c'est là.
Moi, ma mère, elle a toujours été là. C'est vrai que j'en ai fait un peu
C'est une question de tempérament.
Voilà, ma mère a un assez gros tempérament quand même, mais je m'en suis pris plus d'une. Mais c'est vrai que je suis arrivée à une période où ce qu'elle me disait, ça m'entrait dans une oreille, ça sortait par l'autre, et c'est là, bien Morin ou Marius, faut qu'il y ait une personne à l'extérieur qui nous apprenne certaines choses que on va pas forcément écouter de notre mère, mais ça veut pas dire qu'elle nous l'a pas apprise, quoi.
Il y a 22 jeunes au début du stage en fait de l'émission. Il y en a qui abandonnent. Comment c'est un échec pour vous si...
C'est pas un échec parce que le peu de temps que les personnes vont rester, c'était la grande liberté de ce stage, c'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un qui ne voulait pas rester pouvait partir. Donc on se basait sur les bilans de compétences, sur les entretiens individuels, mais il y avait une liberté. Déjà, le fait de prendre un engagement oral, de dire « je vais faire le stage, je vais rester jusqu'au bout si je le souhaite », mais à tout moment, la personne elle a la liberté de quitter le stage. Et je crois que quelle que soit la durée, un jour, 5 heures, 6 heures, 3 jours, 4 jours, il va quand même rester quelque chose dans le coin du cerveau qui va permettre d'avancer. Le travail qui est fait avec l'organisme de formation et dans ma manière de développer les choses... c'est qu'on ne subit pas l'échec.
D'accord. Rémi ?
Mais dire que l'émission Garde à vous qui avait été diffusée sur M6 avait très très bien fonctionné.
Ah oui.
Et donc,
ouais.
Dans les attentes un peu de rencontre avec le public, je pense qu'on peut être optimiste. 3 769 000 téléspectateurs pour la première de Garde à vous en 2016, il y a 3 ans, à peu près à la même époque, en février. Donc, ben voilà, c'est...
Ça promet des audiences
Ouais, je pense que ça doit
fonctionner. Vous allez regarder, oui, vous êtes intéressé par l'audience ?
Moi personnellement oui, l'audience m'intéresse un peu.
Vous avez parce envie que, de oui que ça marche forcément.
Ça marche, que ça marche d'une certaine façon quoi. Enfin, ouais. Ça aide surtout que des jeunes surtout qui sont en décrochage et qui prennent un peu exemple, qu'ils puissent voir qu'on peut se sortir du décrochage.
Mais derrière, ça vous fait pas peur de ressortir parce que tout le monde va vous voir dans votre village, votre collègue, votre mère, ça vous fait un peu peur ou pas ?
Moi, ça me fait un peu peur. Après voilà, comme je l'ai dit, j'ai toujours été Ouais. Pour le coup, j'ai été nature peinture dans l'émission, mais j'ai toujours été moi-même, donc je regrette en aucun cas tout ce que j'ai fait. Et ça plaît ou ça plaît pas.
Et ça vous plaît d'être connu éventuellement ?
C'est pas ce que je recherche. Donc, ouais,
Et Marius, vous allez regarder les audiences demain matin à 9h.
Je vous avoue quelque chose ?
Ouais.
J'ai pas de télévision. C'est dommage, hein. Je suis content de venir.
Vous l'avez vu l'émission ?
J'ai pas de télévision.
Vous l'avez vu quand même
l'émission ? J'ai vu la bande-annonce, ouais. J'irai peut-être chez...
Vous avez pas vu le montage ?
Chez une amie... Non, j'ai regardé la bande-annonce. Je regarde jamais après les montages ou les choses comme ça. On en discute, mais voilà.
Ah bon.
Je fais confiance. Et puis j'ai pas de télévision, quoi.
Eh ben, écoutez...
C'est quand même... C'est désolant, c'est pour ça que
c'est... Non, c'est pas désolant.
Voilà, j'en ai pas.
Tout le monde a le droit de ne pas regarder la télé. Le sens de l'effort. Donc c'est ce soir à 21h sur M6, vous allez retrouver Maïline Morin et évidemment Marius qu'on va retrouver avec plaisir. Merci à vous, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, on est avec vous en direct jusqu'à midi et entre 10h et 11h, les médias. Alors hier, on apprenait que la direction de France Télévisions avait l'intention de faire disparaître ou en tout cas de reprogrammer d'une manière différente le journal, le JT du soir de France 3 qui pourrait être bientôt diffusé d'abord sur France Info TV, donc Canal 27, puis diffusé sur France 3. Donc vive émotion évidemment au sein de la rédaction de France 3. Pour en parler, Serge Simineau, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Journaliste à France 3, délégué SNJ, donc syndicat national des journalistes. Et avec nous en ligne, Yannick Letranchant, directeur de l'information de France Télévisions. Bonjour.
Il n'est peut-être pas encore arrivé.
Il n'est pas arrivé, Yannick Letranchant. Alors racontez-nous un petit peu, puis on va voir. Il est là ou pas ?
Non. Alors, ce que je peux peut-être vous dire simplement, c'est que déjà, quand même, Soir 3, c'est un journal qui a été créé
alors,
en 1978 par Jean-Marie Cavada. Donc, c'était déjà une grande innovation à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas ce rendez-vous de deuxième partie de soirée qui existait. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution dans la façon dont a été diffusé Soir 3, parce que le grand problème de Soir 3, c'est qu'il vient après les émissions qui sont en première partie de soirée et que donc on peut pas être comme le 20h qui a un rendez-vous fixe, donc l'horaire juste je voudrais dire qu'il y a eu un moment où il y avait une formule qui avait été trouvée, c'est qu'on mettait un programme Ce soir ou jamais qui était coupé pour que ce soit tous les jours à 23h en fonction de la durée du programme d'avant, pour qu'on puisse avoir un Soir 3 exactement à heure fixe. Là, en ce moment, oui, ça bouge pas mal. Effectivement, j'ai regardé Valérie sur cette semaine, par exemple. Hier, c'était à 23h15. Ce soir, c'est à 23h35. Demain, à 23h10. Jeudi, à 22h45. Et puis vendredi, à minuit 25. Donc... évidemment, c'est assez impactant, j'allais dire, puisque les audiences elles bougent entre par exemple le 12 février c'était 713 000 téléspectateurs, hier 527 000 et puis le 13 février c'était à presque minuit, évidemment l'audience était seulement de 253 000 téléspectateurs, donc il y a quand même il y a un peu des éléments qui font que Soir 3 est moins visible et précis que le 19-20 ou que
le 20h. Alors on a Yannick Letranchant en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour, vous êtes directeur de l'information de France Télévisions. Alors racontez-nous un petit peu ce qui va se passer pour le Soir 3.
Alors, je précise que c'est un chantier, hein, c'est un chantier que je lance pour réfléchir à une meilleure exposition, une meilleure visibilité d'un journal du soir sur le service public. Et vous l'avez dit, le Soir 3, à l'heure actuelle, a une programmation pour le moins aléatoire, fluctuante, avec des audiences, effectivement, qui le sont elles aussi. Donc, je me dis que sur le service public, on peut avoir un rendez-vous du soir, un rendez-vous d'information du soir, notamment sur la chaîne Info, sur le canal 27, qui serait exposé à un horaire beaucoup plus favorable, c'est-à-dire dans une tranche d'info du soir, on va dire entre 22h30 et minuit, pour une primo-diffusion, et que dans cette tranche-là, un journal pourrait être rediffusé quelques minutes plus tard sur France 3, mais après une ES2,
partie de soirée. Pourquoi quelques minutes plus tard, à ce moment-là, quel est l'intérêt ?
L'intérêt, si vous voulez, c'est de pouvoir avoir une grille de programme qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus installée sur France 3, avec une première partie de soirée, une deuxième partie de soirée qui peut nous amener à minuit et demi, et que pour les personnes qui voudraient un journal du soir à un horaire beaucoup plus favorable, auraient une tranche d'information sur la chaîne Info et potentiellement en fonction, si l'actualité le permet, rediffuser sur France 3, mais en toute fin de programme.
Ça veut dire que ça pourrait être vers minuit, minuit et demi, Soir 3, si on comprend bien le projet.
C'est ça qui est à discuter, c'est ça qui est à travailler avec les équipes de Soir 3, que j'ai vues d'ailleurs hier, et avec lesquelles on va travailler. On va travailler à la fois avec les équipes de France Info, le canal 27, et l'équipe de l'édition de Soir 3 dans les semaines qui viennent.
Moi, j'avais une question à vous poser, Yannick. C'est dans tous les pays, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie, quand on regarde nos voisins, le journal du soir est très suivi, et c'est même en Angleterre, sur la BBC, ici ou sur même ITV, ce sont des rendez-vous très suivis du journal du soir où on fait un peu le bilan et on a un recul sur la journée qui s'est déroulée, on prend un petit peu plus de temps et c'est des carrefours très importants, y compris aux États-Unis où il y a un journal à 22h sur la chaîne CBS. Comment vous expliquez que nous on n'arrive pas à avoir ce rendez-vous du soir par rapport à nos autres chaînes en Europe et dans le monde ?
Vous l'avez dit, dans beaucoup de pays, ce rendez-vous est à 22h. Nous, on ne peut pas le faire à 22h. On a une grille de programme donc qui est celle-là. Et à partir du moment où on a une offre d'information sur le service public, c'est-à-dire un canal supplémentaire qui n'est pas une chaîne de complément, mais une chaîne à part entière, je pense qu'il faut regarder quelles sont nos offres d'information sur tous nos canaux, sur toutes nos offres à la fois de programme et d'information, et avoir, comme vous le dites, un rendez-vous sur une chaîne info, donc on rejoindrait un petit peu ce qui se fait effectivement dans d'autres pays, à partir de 22h30, avoir un grand rendez-vous. Et comme vous le dites, avec une ambition éditoriale qui est déjà forte dans le Soir 3, donc actuelle, l'idée ce serait de garder avec une ouverture à l'international, une ouverture à l'Europe, comme c'est le cas aussi. Donc je pense qu'il faut garder, dans le cadre du groupe de travail, il faut garder cette ouverture-là.
Mais est-ce que clairement, enfin on sait que les budgets d'une chaîne d'info ne sont pas les mêmes que ceux d'une chaîne nationale, donc est-ce que vous pouvez est-ce que ce ne sera pas un journal au rabais sur France Info ?
Non, l'idée c'est que ce soit pas un journal au rabais, en sachant que il s'agit du budget de la direction de l'information. Donc de toute façon, que ce soit le Soir 3 ou la direction de l'info, ça rentre dans le budget, dans mon budget de la direction de l'information. Et que l'idée c'est de faire travailler, si évidemment elle le souhaite, l'équipe du Soir 3 pour ce futur rendez-vous-là qu'il faut construire, auquel il faut réfléchir. Il faut que ce soit un journal qui soit très ambitieux, ouvert à l'international et où on donne la parole à des invités et où il y a aussi du débat.
Alors, merci Yannick Letranchant. On va écouter ce que Serge Chimino a à nous dire. Journaliste à France 3, vous êtes journaliste depuis 30 ans à France 3, délégué SNJ. Donc, c'est votre syndicat hier qui a alerté sur la probable suppression du Soir 3. Donc, on vient d'entendre Yannick Letranchant qui a apporté quand même des nuances à cette disparition pure et simple. Donc, il y aurait une diffusion tout de même d'un journal du soir. Qu'est-ce qui vous choque dans cette proposition ?
Alors je salue mon directeur avec qui on aura certainement ce débat dans le cadre et dans l'enceinte de France Télévisions. Il y a deux mots qu'il ne prononce pas, c'est tout à fait classique, c'est suppression. Il ne faut pas parler de rediffusion quoi que ce soit, le principe de départ est une suppression. Le deuxième mot qu'il n'est pas prononcé, c'est économie. puisque le soir 3, et on parlera des horaires un peu plus tard, le soir 3 nécessite des techniciens, un certain nombre de salariés pour faire ce journal de qualité, et comme vous le disiez, qui est une référence dans certains pays d'Europe, qu'on ne cite pas pour cette fois comme exemple. La BBC est un exemple quand ça arrange, mais c'est un rendez-vous qui est très important. Donc ce sont des économies. Alors nous, France Info fait partie de France Télévisions, donc c'est une chaîne qu'on a envie de voir réussir, mais pas au détriment d'un rendez-vous, vous l'avez rappelé, de 40 ans, créé par Jean-Marie Cavada, qui a dit d'ailleurs ce matin, ou hier dans Le Parisien, c'est une insulte à la redevance et donc aux spectateurs. Pour le reste, on est dans une nouvelle économie, ce qu'appelle le nouveau paradigme la présidente Delphine Ernotte, c'est que pour faire grandir France Info, il faut le faire au détriment de ce qui existe sur ce bon vieux linéaire qui n'existerait plus. Je rappelle quand même que si France Télévisions perdait ces programmes linéaires, on perdrait quand même beaucoup de téléspectateurs. Et un point sur les horaires. Qui décide des horaires fluctuants de soir 3? C'est pas vous, c'est pas moi. Donc, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Et je rappelle, pour répondre à votre question, France Info, qui grandit petit à petit, et tant mieux, qui essaye de faire concurrence aux autres chaînes info, à cette heure-là, vous avez les audiences. C'est autour de 50 à 60 000. Même un mauvais soir 3, ce qui est quand même assez rare, vous disiez 250 000, hier c'était 543 000. Faites le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Uniquement des économies et de faire grandir au détriment du bon vieux service public, cette bonne vieille télé qui serait abandonnée dans je ne sais combien d'années, on sacrifie une édition qui a trouvé ses marques et qui est un moment de réflexion. Et puis je termine, pour les journalistes de la rédaction, c'est un choc. Pourquoi? Parce que c'est un moment de réflexion où on a le temps de développer des sujets. Et au moment où on nous accuse, au moment où il y a cette défiance vis-à-vis des journalistes, et pas seulement autour du mouvement des Gilets jaunes, on enlève un rendez-vous de réflexion. Alors, monsieur Le Tranchant a parlé d'un chantier, je vous l'annonce presque en exclusivité, nous allons occuper le chantier. Et nous allons lui dire qu'il est hors de question
Qu'est-ce que vous voulez dire, que vous allez occuper le chantier?
On va participer, non, on n'en est pas là, je ne suis pas mandaté pour vous parler de ça, je dis qu'on va participer à ce chantier. On a vu hier les gens du soir 3 qui, je peux vous le dire, sont sous le choc, et pas seulement son présentateur vedette que je salue, mais nous sommes sous le choc. Mais c'est l'ensemble de la rédaction qui est concernée. Voilà, on peut le saluer. C'est l'ensemble de la rédaction. Le soir 3, il y a une équipe dédiée, de rédacteurs en chef, de quelques journalistes qui sont tout le temps sur le soir 3, mais par exemple, moi, je suis habilité à y travailler. Donc, c'est alors, toute la rédaction.
Rémi
juste
Perdelet,
une question. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de la création de la chaîne France Info qu'on a saluée, enfin, certains ont salué, en tout cas, comme une chaîne d'info de service public qui manquait? Et donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ou une contradiction entre vouloir à tout prix faire réussir France Info, la faire grandir par rapport à ses concurrentes privées, et dire, ah oui, mais dès qu'on enlève un rendez-vous d'info, là je me fais un peu l'avocat du diable, dès qu'on veut enlever un rendez-vous d'info, c'est pas possible.
Monsieur, moi vous auriez pu poser la question à Delphine Ernotte, j'aurais bien aimé vouloir entendre sa réponse. Les gens qui regardent France 3, ils ne regardent pas France Info. Les gens qui regardent France Info ne regardent pas France 2. C'est pas Roland Garros, le service public. On ne regarde pas un set sur une chaîne et la fin du match sur un autre.
Non, mais si on veut installer une chaîne d'info, est-ce qu'on n'est pas obligé de faire des actes forts?
Pardon, je vous réponds. Je ne dirige pas France Télévisions. Il faut penser aux téléspectateurs un petit peu. Il y a des identités de chaîne. On veut les gommer. C'est le projet de M. Candilis sur la transversalité. Dont acte. Ça, c'est valable pour les programmes. Mais regardez, prenez un exemple. On a voulu installer une complémentarité par la fusion des rédactions avec le 19-20 de la 3 et le 20h de la 2. Que font les gens massivement après le 19-20 de France 3? Ils vont sur le 20h de TF1. Donc vous voyez, les téléspectateurs, ils ont leur rendez-vous. Et le soir 3 est un rendez-vous. Je rappelle, dernier détail, quand le capitaine Marlowe est au programme, qui fait 5, 6, voire près de 7 millions,
7, oui.
Le soir 3, qui est à une heure bien programmée, fait plus d'un million de téléspectateurs. Et ça, on va le gommer sur quoi? Sur l'autel d'une complémentarité. France Info existe, c'est une chaîne à part, qui est devenue quasiment parfois une chaîne de breaking news, qui n'était pas le projet de départ, qu'elle vive, qu'elle existe, mais pas au détriment des chaînes qui existent aussi de l'autre côté.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une réflexion à avoir, parce qu'on parle, ça fait 30 ans, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir aujourd'hui sur le déficit de France Télévisions?
Tout à fait.
Il y a une évolution, on ne peut
mais
pas rester figé non plus.
Nous sommes comptables de l'argent des
voilà.
Bien sûr.
Donc on ne peut pas rester figé. On se dit qu'à partir du moment où il y a une rédaction France Info et qu'il y a une chaîne qui existe comme telle, pourquoi pas fabriquer ce journal-là et la rediffuser, rediffuser le journal à minuit et demi?
Bien sûr, mais on peut aussi se demander si le calcul comptable ne devrait pas favoriser des chaînes qui fonctionnent que des chaînes qui tentent de trouver leur place.
Oui, après, on ne nous a pas vendu France Info comme une chaîne info comme LCI ou les autres. Oui. On nous a vendu une chaîne jeune avec des synthés, un habillage différent.
Vous, Serge Chimino, vous pensez qu'il faudrait un rendez-vous à un horaire précis, comme ça existait à un moment donné? C'est ça votre contre-proposition? transition.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'on nous présente dans le chantier, comme le disait M. Le Tranchant, l'argument de l'horaire fixe. Ça fait des années qu'on le réclame, pas à 22h. À l'époque où Mme Danastier était encore directrice des programmes de la 3, on avait ces débats-là. Elle disait, moi, j'ai des rendez-vous installés. Elle a d'ailleurs plutôt pas mal réussi. Mais on lui disait, plutôt que de diffuser à l'époque 3 familles d'accueil, dont 2 rediffusions, on pouvait mettre un journal à 23h, 23h15, qui est un horaire qui fonctionne. Mais pour en revenir à l'équilibre global, on parle d'économie. Mais nous, ça fait des années qu'on propose de faire des économies. Mais pas là où on devrait les faire, c'est-à-dire pas sur le cœur de métier. Bah, vous le savez très bien, sur les couches de cadres, sur les gens qui trouvent un certain confort dans certains placards, sur l'argent donné aux animateurs producteurs. Et là, je peux vous dire que le Soir 3, il n'aurait pas besoin d'être supprimé parce que c'est une question d'économie. Après ce rendez-vous, et pardon de faire un peu de déontologie à cette heure-ci, mais vous avez entendu, rediffuser un journal, ça vous choque pas ? L'expression rediffuser un journal.
À quelques minutes.
Non, mais rediffuser un journal, ça veut dire qu'il ne sera pas en direct.
Oui, mais à quelques minutes.
Alors,
à quelques minutes.
Vous avez posé la question, madame expert. Quel est l'intérêt ? Il est bien économique.
Quelques minutes. Alors, en admettant qu'il y a un journal à 22h30 qui dure jusqu'à 23h30.
Madame expert, même quelques minutes. Enfin, l'information, elle ne va pas dire, tiens, il y a une rediffusion en 2 minutes, on va attendre.
Oui, mais le journal de 22h30, il n'est pas non plus. Il est dans l'actualité. Mais je veux dire, ce n'est pas à une heure près.
Non, mais c'est à la minute près. Vous savez très bien comment faire un journal.
Bien sûr.
Il nous arrive parfois à 23h45, quand il est très tard, d'être en cabine, en direct, pour faire notre reportage.
Oui, mais France 2 a bien survécu à la fin de son journal, le fameux journal de la nuit de France 2.
Oui, et à l'époque, pourquoi il a été supprimé ? Pour pas faire concurrence au Soir 3. Ouais. Vous voyez comment on avance et on gratte. Moi, je pense que les téléspectateurs de France 3, comme ceux de France Info, ont droit à leur programme propre. Ouais. Mais France Télévisions ne doit pas se nourrir de ses propres chaînes pour en nourrir d'autres. Voilà, le problème, il est là.
Alors, on a Yannick Le Tranchant, peut-être une réaction.
Pas gagné quand même, Yannick Le Tranchant.
Oui. Non, de toute façon, c'est un chantier qu'on lance, c'est un travail donc qui est à faire. Je ne veux pas rentrer dans un débat parce que ce serait indécent par rapport aux autres organisations syndicales.
Vous avez un comité, et puis vous avez un comité d'entreprise cet après-midi.
On a un CSE donc exceptionnel, donc je ne vais pas entrer dans un dialogue parce que ce serait pas sympa pour les autres organisations. Donc je m'y tiendrai pas. Ce que je veux dire et tout ce que j'entends est tout à fait audible, tout à fait légitime. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que mon souci premier n'est pas un souci d'économie, même si, au final, bien sûr, que ça peut permettre des mutualisations, des synergies et donc des économies. On est dans un contexte qui est contraint. Mais moi, ma préoccupation initiale, ma préoccupation première, c'est qu'on puisse avoir un journal de fin de soirée à un horaire beaucoup plus accessible. Et moi, je ne veux pas... c'est pas la bonne expression, mais je ne veux pas siloter l'info sur la 3, l'info sur la 2, l'info sur France Info. Et par rapport à ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, je rappelle que France Info, Canal 27, on est sur du linéaire, donc c'est très accessible. On est sur une chaîne à part entière, on est sur un canal à part entière. Donc avoir une information de service public de fin de soirée sur France Info, Canal 27 à partir de 22h30, ça me semble une bonne chose. Et si effectivement des téléspectateurs qui effectivement pouvaient être fidèles au Soir 3 pouvaient nous rejoindre, et je ne doute pas qu'ils puissent nous rejoindre, surtout si Francis Letellier incarne potentiellement ce nouveau rendez-vous-là, et qui est quelqu'un de très compétent, de très reconnu et de très apprécié.
C'est dans le projet, ça.
Ça serait toujours Francis Letellier.
Comment il a réagi d'ailleurs hier ? Il vous a appelé ?
Je l'ai vu, ce qui était la moindre des choses. Il est au-delà du choc que ça comprend, parce qu'effectivement on se lance dans un chantier qui effectivement remet en cause effectivement des choses qui existent depuis très longtemps. Et je dis juste, c'est pas parce que ça existe depuis très longtemps qu'il faut pas effectivement les faire évoluer parce que rien n'est figé. Sinon on ferait plus jamais rien. Moi j'ai travaillé au journal de 20h il y a une quinzaine d'années, le journal de 20h que je supervise.
Vous dites il faut que tout ça évolue, quoi.
Mais voilà, il faut que ça évolue. Il faut mettre tout sur la table. Il n'y a pas de tabou en la matière.
Bon, merci beaucoup Yannick Le Tranchant d'avoir été avec nous. Merci. Merci Serge Chimino d'avoir été avec nous également.
Merci de votre invitation.
Bon CSE central. Et on espère que vous trouverez un terrain d'entente. Allez, 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias.
vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors, c'est ce soir sur France 5, déchets électroniques, le grand détournement. Est-ce que vous savez où aboutissent vos déchets électroniques une fois que vous les jetez à la poubelle ou encore plus mal, que vous les abandonnez sur le trottoir? C'est en tout cas un parcours incroyable qui est raconté ce soir sur France 5. Et on a téléphoné à Coraline Salvoche, la réalisatrice, qui va nous convaincre en 30 secondes de regarder ce documentaire ce soir.
Alors, ce qu'on vous propose, c'est l'histoire d'un incroyable scandale économique et écologique. La plupart des Français pensent que nos vieilles télévisions, nos vieux frigos et nos ordinateurs sont démontés et recyclés correctement. Mais en réalité, une fois sur deux, derrière ces déchets électroniques se cache un trafic international. Des groupes mafieux récupèrent ces déchets et les transportent jusqu'en Afrique et en Asie. À l'arrivée, ce sont bien des ados qui vont les démonter à main nue dans de gigantesques décharges pour récupérer des métaux précieux comme